Bienvenue. Bienvenue pour l'épisode 3 de Déclencheur, le podcast qui parle photo. Trois segments dans cet épisode, comme d'habitude, l'édito, où une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un matériel qui vient de sortir. Le segment principal qui sera consacré, comme promis dans l'épisode précédent, à l'histogramme. Et enfin, le troisième segment, le segment des commentaires, vos réactions à l'épisode numéro 2. Je vous rappelle déjà l'adresse du site pour vous permettre de laisser vos commentaires ou de vous abonner, www.déclencheur.com. J'en profite pour vous signaler que le site a été revu et j'ai rajouté une option pour vous permettre de vous abonner sans installer un agrégateur en vous abonnant par email. Avant d'aller plus loin, je vous signale la disponibilité pour cet épisode, exactement comme pour l'épisode 2 d'ailleurs, d'un complément visuel. Donc l'idée est d'illustrer les points les plus techniques de la discussion sur l'histogramme. Le complément est disponible sous forme d'un PDF, il est passé dans le flux de l'abonnement, donc si vous êtes abonné, vous avez normalement dû le recevoir. Si vous n'êtes pas abonné, visitez donc le site www.déclencheur.com pour télécharger le PDF et pour vous abonner. Je vous rassure, il n'est pas indispensable d'avoir le complément visuel sous les yeux pour suivre l'épisode, mais je crois que ce sera un petit peu plus confortable. Premier segment, donc l'édito. Alors je vais parler ici d'un produit qui vient de sortir. Le produit, ce sont les Elinchrom D-Light. Ce sont en fait des flashs de studio fabriqués par la société suisse Elinka, le fabricant des flashs Elinchrom depuis des années maintenant. Les D-Light sont en fait leur version économique des flashs de studio électroniques. Et je trouve personnellement qu'ils ont très très bien réussi la balance entre la qualité et le prix pour l'usage ciblé. Ce ne sont pas des flashs qu'on va utiliser tous les jours de façon intensive. Ce sont des flashs qui sont bien adaptés pour faire une séance une ou deux fois par semaine. Mais pour ce type d'usage, je crois qu'ils ont magnifiquement réussi leur balance de produits. Vous avez en effet un variateur électronique sur 5 diaphragmes. La variation se fait en continu par dixième de diaphragme. Évidemment, la cellule infrarouge sans fil, la lampe pilote comme on trouve habituellement sur ce genre de produit. Les flashs sont disponibles en 100 watts, 200 watts et 400 watts. Et ce que je trouve vraiment très très intéressant et très très enthousiasmant, le flash 400 watts coûte 350 euros l'unité. Évidemment, des kits sont disponibles qui permettent d'acquérir plusieurs unités à un tarif intéressant, avec en plus des accessoires genre sac, etc., etc. J'ai personnellement acheté un kit D-Light 4, donc les D-Light 400 watts, que j'ai acheté via une boutique autrichienne. Malheureusement, une des deux unités dans le kit était défectueuse, j'ai donc dû la retourner, ce qui m'a donné l'occasion de tester le service après-vente. J'attends le retour de l'unité de réparation, mais je dois dire qu'en tout cas, de ce que j'ai reçu des échanges d'emails jusqu'à présent, j'ai trouvé le service extrêmement sérieux. Alors, la raison pour laquelle je suis si enthousiaste pour ce produit, c'est parce qu'à ma connaissance, en Europe, il n'y a pas aujourd'hui d'équivalent au D-Light. Donc, et sans vouloir vous donner l'impression que je suis en train de lire une annonce marketing, parce que ce n'est pas du tout le cas, je crois vraiment qu'ici, Elinka crée une nouvelle catégorie de produits. Des flashs de studio, de qualité, pour un usage non pro, c'est-à-dire un usage qu'on ne va pas solliciter tous les jours. Les habitués des forums photo américains connaissent les flashs Alien Bees, qui sont des flashs grand public produits aux États-Unis, uniquement vendus aux États-Unis, qui sont très populaires là-bas. Bien, je crois qu'Elinka essaye d'offrir un petit peu le même genre de produit ici, mais avec une qualité qui est vraiment très très enthousiasmante. Elinchrom les présente comme étant des flashs semi-pro, et c'est clair que la qualité de construction est plus légère que sur du matériel professionnel. Par exemple, le flash est complètement en plastique. Je dirais pas qu'ils sont fragiles, mais bon, c'est clair que pour un usage quotidien intensif, ils ne résisteraient sans doute pas très très longtemps. La principale limitation, c'est qu'il n'y a pas de ventilateur. Donc ça veut dire que, en particulier, la lampe pilote est assez faible, c'est une lampe de 100 watts. Mais ce qui est vraiment enthousiasmant, c'est qu'Elinchrom n'a absolument pas lésiné sur la qualité de l'éclair. C'est un vrai variateur électronique, je réinsiste dessus sur 5 diaphragmes en continu, et l'éclair est extrêmement constant. Je me suis servi de l'unité qui fonctionnait pour préparer le complément visuel de cet épisode, et donc j'ai eu à faire, vous le verrez sur le complément visuel, des dizaines de photos en série les unes derrière les autres, et là on se rend compte vraiment que l'éclair est vraiment constant de photo en photo. C'est un vrai variateur électronique, et il fait très très bien son travail. Autre avantage, les unités sont Elinchrom, donc c'est un vrai produit Elinchrom, avec l'attache Elinchrom. Donc ça veut dire que vous avez accès à tout le catalogue en matière de boîte à lumière, parapluie, etc. des Linkrum. Et ça veut dire aussi que vous pouvez aller puiser dans les catalogues de n'importe quel fabricant d'accessoires de flash de studio, puisqu'ils ont tous évidemment la bague de connexion disponible pour Linkrum. Ça veut dire aussi que si vous achetez ce kit-là comme étant un kit pour travailler en studio aujourd'hui, puis que vous avez à un moment le besoin de migrer vers du matériel plus professionnel, bien les accessoires que vous achetez restent compatibles. Alors, je vais terminer cette petite revue enthousiaste en répondant peut-être à la question par laquelle j'aurais dû commencer. Ok, mais un flash de studio, à quoi ça sert exactement? Eh bien, ça sert à offrir un contrôle total sur la lumière au studio. Sur un flash de studio par rapport au flash de reportage, quelque part on peut dire que tout l'argent est parti dans la qualité de l'éclair, donc dans la qualité de la lumière. À prix équivalent par rapport à un flash de reportage, vous avez beaucoup plus de puissance, vous avez des éclairs qui sont parfaitement constants, vous avez des flashs qui sont extrêmement contrôlables et vous avez la possibilité d'adapter sur votre flash un jeu d'accessoires gigantesque, ce qui veut dire que vous pouvez parfaitement contrôler et moduler la lumière. Et évidemment, la lumière étant la base même de la photo, je ne vais pas retomber dans l'étymologie de photographie, mais la lumière étant la base même de la photo, bien au studio, c'est la garantie de la qualité. Vous n'êtes pas familier de flash de studio, sachez que dans cette gamme de prix en Europe, ce qu'on trouve généralement sont des produits avec une technologie assez ancienne, et en particulier les produits sans variation électronique. Ça veut dire qu'on n'est pas certain d'avoir la même constance dans le flash, et ça veut dire aussi que généralement ce sont des produits qui tirent à pleine puissance ou qui tirent à demi-puissance, donc vous n'avez pas le même niveau de contrôle. Donc je m'arrête là parce que je répète, Déclencheur ne se veut pas un podcast de test de produits, mais je crois que vous avez senti mon enthousiasme. Je voulais partager cet enthousiasme parce que c'est vraiment ça, Déclencheur. Je vous cite les adresses où vous pourrez vous renseigner sur ces produits-là. www.elinkrum.com, donc ça évidemment c'est le fabricant, et la boutique où j'ai acheté mes flashs, www.photomuller.at, photo avec un F et un tiré entre le photo et le Muller. Je vous rassure, je mets tout ça sur le site. Je vous rassure, Linkrum n'est pas une marque internet, donc évidemment ce sont des flashs qu'on trouve en boutique photo si vous préférez acheter ça en boutique photo. Ce qui nous amène au deuxième segment, qui lui est consacré au thème principal de l'épisode, l'histogramme. Alors l'histogramme, c'est un sujet qui a déjà été pas mal couvert par la presse photo, qui est déjà très très couvert par les sites photo, mais c'est un sujet qui est vraiment essentiel à la photographie, à la manière dont la photographie a évolué, et donc je voulais absolument le couvrir, et je voulais le couvrir assez tôt dans ces épisodes déclencheurs. Pour moi, l'histogramme, c'est une avancée gigantesque dans le contrôle de la qualité de la photo. C'est au moins équivalent à l'introduction de la mesure matricielle de l'exposition, donc c'est vraiment un changement, une facilité, un contrôle supplémentaire remarquable. Alors, j'avoue, mon biais, je suis informaticien, donc ça veut dire que je suis relativement sensible aux chiffres et aux graphes. Je suis donc peut-être un petit peu plus sensible à l'histogramme, il me parle peut-être un peu plus que la moyenne des photographes, mais j'ai toujours constaté quand on explique l'histogramme de façon un petit peu claire, et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant, eh bien tout le monde peut le comprendre, même s'il n'est pas vraiment matheux, et je vous promets, il n'y aura pas une seule équation, il n'y aura pas un gramme de maths dans tout l'épisode. L'histogramme, c'est le moyen de vérifier l'exposition. Alors, en deux mots, l'exposition, c'est quoi? Mais c'est de choisir le trio vitesse d'obturation, ouverture de diaphragme, sensibilité du capteur pour s'assurer qu'on ait des tons corrects dans toute l'image. Donc pour s'assurer qu'on n'a pas une image trop claire qui est dite surexposée ou une image trop sombre qui est dite sous-exposée. Une exposition correcte, c'est le point de départ d'une bonne photo. Parce qu'une photo correctement exposée, ça veut dire une photo qui présente le sujet de façon flatteuse et qui va avoir des détails à la fois dans les zones d'ombre de la photo et dans les zones les plus claires. Et donc sur l'ensemble de l'image, on va trouver des détails. Et l'histogramme, en fait, est une courbe qui représente la répartition de la tonalité dans l'image. En fait, l'abscisse, donc l'axe horizontal, reprend les tons depuis la gauche, les tons les plus foncés, jusqu'à la droite, les tons les plus clairs. Et l'ordonnée, l'axe vertical, eh bien, il montre si un ton donné, un ton à l'abscisse, est très présent ou peu présent dans l'image. Si vous avez le complément visuel ou la possibilité de le consulter, je vous invite à vous tourner vers la page 3. Et j'en profite pour vous présenter Carla, qui est un ancien mannequin. Malheureusement, c'est un mannequin de magasin, c'est pas un mannequin top modèle. et Carla me sert en fait pour différents tests photo. Alors, sur la page 3, vous voyez une photo et 4 histogrammes. Un histogramme en noir, un en rouge, un en vert et un en bleu. L'histogramme noir est en fait la somme, la moyenne des 3 histogrammes de couleurs et pour le moment, c'est le seul qui va nous intéresser. Qu'est-ce que nous apprend l'histogramme? On y voit une courbe et cette courbe marque la répartition des tonalités. Donc ça veut dire que si la courbe est plutôt homogène, c'est le signe que les tonalités sont homogènes dans toute l'image. Et pour la plupart des photos, des tonalités homogènes, c'est ce qu'on veut. Parce que la plupart des sujets sont relativement homogènes dans leur ton. Donc ça veut dire que si vous avez des tonalités homogènes, c'est généralement le signe d'une photo correctement exposée. Par contre, si l'histogramme est très orienté vers la droite, donc vers les valeurs claires, ça veut dire qu'on a peu de valeurs sombres dans l'image. On n'a pas beaucoup d'ombre. C'est donc de deux choses l'une, soit une photo dite high key, une photo en ton clair, donc dans le genre des pubs d'Apple, là, vous avez le produit sur un fond blanc, soit une photo surexposée. Parce que vous avez, quand la photo est surexposée, les ombres ne sont plus, comme on s'y attend, sombres, mais elles sont en fait trop claires. Et si vous tournez maintenant, si vous avez le complément visuel, regardez la page 4, vous y verrez un exemple de photo surexposée. Et on le voit très bien, en fait, le visage est blanc au lieu d'avoir sa teinte normale. Il n'y a quasiment pas d'ombre dans toute la photo. Ce qui a comme effet qu'on distingue très mal les traits, les couleurs ne sont absolument plus naturelles. En fait, le visage du mannequin est devenu blanc maintenant, donc la photo est complètement ratée. L'histogramme confirme immédiatement la surexposition, puisque au lieu de couvrir l'ensemble des tons, l'histogramme d'une photo surexposée est complètement décalé vers la droite. Et on a même une pente qui vient un petit peu comme s'écraser sur l'axe placé à droite. Et l'axe à droite, évidemment, c'est le blanc, puisque c'est le ton le plus clair. Or, dans la nature, on a rarement un sujet parfaitement blanc. Donc si vous avez comme ça une courbe qui montre une prédominance de blanc, généralement, c'est le signe qu'on a surexposé, qu'on a brûlé ces blancs. Donc si c'est le cas, il faut refaire la photo en corrigeant l'exposition. En l'occurrence, le blanc peut être apparu parce qu'on a un flash qui est placé trop près du sujet. Auquel cas, il faut éloigner le flash du sujet, ou éloigner le sujet du flash, ça dépend. Vous avez dans la zone photographiée, un objet sombre, très sombre, et qui va tromper la cellule et emmener l'appareil à faire une erreur. Je vous renvoie au mode d'emploi de votre appareil pour la démarche exacte sur la correction d'exposition. Mais généralement, la correction d'exposition est accessible via un pictogramme d'un carré, moitié noir, moitié blanc, avec les symboles plus et moins dans le carré. Via ce pictogramme, vous devez accéder à un menu ou en fonction des appareils, une molette, qui va vous permettre de dire en fait que vous voulez exposer davantage ou exposer moins. Ici, en l'occurrence, comme la photo est surexposée, on va essayer de l'exposer moins. Et donc, on va corriger, par exemple, en indiquant qu'on veut exposer de moins un diaphragme. On refait la photo et on regarde l'histogramme. Si l'histogramme est plus neutre, mieux réparti, a priori, la photo est bonne. Si, par contre, il reste encore trop orienté vers la droite, on augmente la correction en allant une correction de moins 2. Si on constate qu'il est parti trop vers la gauche, on diminue la correction et on fait par exemple une correction d'un demi au lieu de faire une correction de 1. Alors attention, il y a un piège ici. Je vous dis, on prend la photo, on regarde l'histogramme et puis on corrige en fonction de ça. Le piège, c'est l'écran arrière de l'appareil numérique. Souvent, on regarde cet écran et on a raison de le faire pour voir si la photo est bonne. C'est l'occasion de vérifier effectivement qu'on a bien le sujet qu'on veut, que l'expression est bonne, que la photo est nette, si on a la possibilité d'activer une loupe pour voir l'image en grand. C'est l'occasion de vérifier qu'à la limite qu'on ne s'est pas trompé en cadrage, etc. C'est peut-être l'occasion d'aller montrer la photo à son sujet pour le rassurer et l'amener à être plus à l'aise pour les photos suivantes. Tout ça, c'est formidable. Mais par contre, l'erreur à ne jamais commettre, c'est vouloir vérifier l'exposition sur l'écran. Vous êtes certain de vous tromper. L'écran de l'appareil n'est pas là pour vous donner une image fidèle de l'exposition de la photo. Selon l'appareil, selon votre modèle d'appareil, l'image va apparaître surexposée ou sous-exposée quand elle est correctement exposée. Donc on ne regarde pas l'écran, on lit l'histogramme. Évidemment, quand je dis on ne regarde pas l'écran, on ne regarde pas l'image à l'écran, puisque l'histogramme va lui aussi apparaître sur l'écran. On ne regarde pas l'image pour juger de l'exposition, on regarde l'histogramme. La démarche exacte pour afficher l'histogramme va varier selon le modèle de l'appareil photo. Donc là, je vous invite à consulter le manuel de votre appareil pour les explications techniques. C'est d'ailleurs assez amusant, j'ai réglé mes appareils, et c'est possible sur la plupart des appareils photo, pour afficher automatiquement l'histogramme après chaque prise de vue. Et donc, quand je fais une photo, ben, discrètement, rapidement, je jette un petit coup d'œil pour m'assurer que l'expo est correcte. Et évidemment, mes amis qui ne sont pas au courant croient que je regarde la photo, ils me disent alors elle est bonne, etc. La plupart du temps, je ne peux pas leur répondre, je n'ai pas regardé l'image, je n'ai regardé que l'histogramme. Alors, j'ai parlé ici de l'histogramme à la prise de vue sur l'appareil photo, mais on va également s'en servir dans Photoshop. Et si vous scannez des films, ben, vous vous en servez également parce que les logiciels de scan utilisent l'histogramme pour vérifier la qualité des réglages de luminosité et de contraste que vous avez sélectionnés. On vient de parler de l'histogramme décalé à droite, indicateur d'une surpondération des tons clairs dans la photo. Eh bien, à l'inverse, si l'histogramme est décalé vers la gauche, ça signifie qu'on a une prépondérance de tons foncés dans la photo. Donc de nouveau, de deux choses l'une, soit le sujet est dans des tons foncés, par exemple, vous êtes en train de photographier le beau piano à queue noire, forcément, comme il est noir, il y a beaucoup de tons foncés, soit l'image est sous-exposée. Si vous regardez la page 5, c'est un exemple d'image sous-exposée. Et ici, évidemment, c'est juste l'inverse. Soit si la photo est prise au flash, le flash est trop éloigné par rapport au sujet, soit la cellule qui mesure la photo a été trompée par un objet clair dans le champ. Et dans ce cas-là, ben, soit vous rapprochez le flash, soit vous incluez de nouveau une correction d'exposition, mais dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas dit l'histo décalé vers la gauche ou vers la droite, c'est l'indicateur de surex ou de sous-exp. J'ai dit l'histo décalé vers la gauche, cet indicateur soit de sous-exposition, soit d'une prépondérance de tons foncés dans le sujet. L'histogramme n'est pas, c'est un petit peu dommage peut-être, mais enfin il n'est pas une lampe qui clignote en rouge quand la photo est ratée. C'est une indication des tonalités dans la photo et il faut l'interpréter par rapport au sujet ou par rapport à les faire chercher. C'est uniquement l'interprétation qui nous dit si la photo est bonne, si l'histogramme correspond à la photo souhaitée ou pas. Donc, par exemple, si vous tournez maintenant vers la page 6, vous verrez que j'ai remplacé le fond par un fond, au lieu d'avoir un fond assez neutre, je l'ai remplacé par un fond dans des tonalités beaucoup plus claires, et donc de toute façon tout à fait naturelle, l'histogramme s'est déplacé vers la droite. Ce n'est absolument pas le signe ici d'une surexposition. D'ailleurs, on voit qu'il ne vient pas s'écraser sur la droite, mais c'est plutôt le signe d'un sujet qui est composé largement de tonalités claires. Comme il n'y a en final qu'un petit peu d'ombre sur la photo, eh bien, il y a peu de tonalités sombres et donc forcément la courbe du côté des tonalités sombres, elle est pas très très marquée. Les deux bords, le bord gauche et le bord droit de l'histogramme, représentent respectivement pour la gauche le noir total et pour la droite le blanc pur. Dans la nature, il est très rare de trouver un sujet qui soit parfaitement blanc ou parfaitement noir. Même la neige, en fait, n'est pas un sujet parfaitement blanc. Le tapis de neige forme un relief. Et ce relief va accrocher la lumière et créer des petites ombres sur le tapis de neige. Et ces ombres, en fait, forment une espèce de détail, donnent de la matière, de la texture au tapis de neige. Si ces petites ombres ne sont pas présentes sur la photo, si la neige est complètement blanche, on aura l'impression d'une masse lourde, sans vie, sans texture et sans relief. Donc, a priori, si vous photographiez un sujet dans la nature et vous avez un histogramme qui vient se caler ou qui indique une pondérance, une importance de tonalité vraiment noire pure ou blanc pur, eh bien c'est généralement le signe d'une photo sous-exp ou surexposée. Généralement, parce qu'il est clair de nouveau, l'histogramme n'est pas un signal d'alarme, il doit être interprété, parce qu'il est clair de nouveau que si vous avez voulu introduire des tonalités sombres dans la photo, mais dans ce cas-là, il est normal que l'histogramme vienne se caler à droite. Par exemple, si vous avez voulu faire une photo un petit peu plus dramatique avec un fond noir, des ombres, etc., c'est un petit peu ce que j'ai fait à la page 7, eh bien, vous verrez que l'histogramme va venir se caler sur la droite pour indiquer la présence d'une tonalité noire. Et effectivement, c'est le cas sur l'histogramme de la page 7. Vous voyez qu'il est calé à noir, calé en partie sur le noir pour représenter le fond qui, lui, est totalement, totalement noir. De la même façon, il est parfois acceptable d'avoir du blanc total sur une photo, par exemple, à condition qu'il soit relativement limité. C'est évidemment un blanc pur, c'est l'indication qu'on a percé les blancs, donc a priori c'est pas bon. Mais si le blanc reste relativement limité, par exemple de petites zones dans un nuage dans le ciel, eh bien ça peut être tout à fait acceptable et c'est souvent préférable à sous-exposer à l'alternative qui serait de sous-exposer le sujet principal. Sur les appareils les plus modernes, les plus récents, les fabricants mettent des écrans de plus en plus grands. On a maintenant des appareils où l'écran occupe carrément tout le dos de l'appareil. Alors, pour utiliser quelque part ces grands écrans, eh bien, certains fabricants ont eu la bonne idée d'insérer des histogrammes en couleur. L'histogramme en couleur, ça veut dire qu'on a l'histogramme habituel qu'on vient de regarder, mais également trois histogrammes supplémentaires représentant chacune des couches de couleur, la couche rouge, la couche verte et la couche bleue. Et les courbes de ces histogrammes de couleur représentent en fait la répartition des tonalités sur la couche donnée. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir comparer la répartition des tonalités entre les différentes couches. L'idée étant que si une des trois couches est plus décalée que les autres vers la droite ou vers la gauche, ça indique une différence d'intensité pour cette couleur. Donc par exemple, si une des couches est beaucoup plus décalée vers la droite, ça veut dire que la couleur en question est beaucoup plus intense, beaucoup plus présente dans la photo. De nouveau en soi, c'est ni un bien ni un mal, ça va dépendre du sujet. Mais si vous regardez l'exemple page 8, eh bien, vous avez une photo dont la balance des blancs est incorrecte. En fait, la photo était prise au flash, mais la balance des blancs était réglée sur incandescent. Donc évidemment, le résultat, c'est une photo complètement bleue au lieu d'avoir des teintes naturelles. Et de fait, pour cette photo, la courbe de la couche bleue est très décalée vers la droite par rapport aux autres couches. Ce qui veut dire en fait, ce qui montre en fait bien qu'il y a prépondérance de la teinte bleue. Ici, elle indique une erreur, mais de nouveau, il faut la comparer par rapport au sujet. Il est clair que si j'avais été en train de photographier une voiture bleue, eh bien, il aurait été tout à fait normal que la courbe bleue soit plus décalée vers la droite que les deux autres courbes. Nous venons de voir comment utiliser l'histogramme, je dirais, sur le terrain, en vérifiant l'exposition, la qualité de l'exposition d'une photo sur l'histogramme au dos, avec l'écran au dos de l'appareil. Mais on va également pouvoir utiliser l'histogramme dans une certaine mesure pour corriger, réparer les dégâts pour une photo mal exposée. Alors la technique exacte va varier selon qu'on a photographié en RAW, en JPEG et selon le logiciel qu'on utilise. Mais je dirais l'outil qui est le plus petit commun dénominateur, l'outil qui est accessible à tout le monde, ce sont les niveaux. Et donc c'est l'outil que je vais utiliser maintenant pour présenter la technique. Depuis Photoshop, et vous accédez au niveau simplement en créant un calque de niveau. La gestion des niveaux se présente systématiquement comme étant un histogramme en dessous duquel on va trouver 3 ou pour certains logiciels 4 curseurs, donc 3 certainement dans le cas de Photoshop et la plupart des applications de retouche d'image. Les curseurs des deux extrémités représentent d'un côté le point noir, côté gauche, et de l'autre côté le point blanc, côté droit. Et le curseur ou les curseurs centraux, selon les cas, représentera lui le ton neutre, c'est-à-dire s'il n'y en a qu'un seul, le gris à 18%, s'il y en a deux, ils vont se placer autour du ton neutre. Le principe, c'est qu'on va pouvoir déplacer le curseur pour les faire épouser au mieux l'histogramme. Donc si par exemple on a une photo sous-exposée, ça veut dire que l'histogramme est très décalé vers la gauche, marquant par la main le fait que dans la photo, il n'y a pas de tonalités qui sont vraiment claires. Ce qu'on va faire, c'est prendre le curseur de droite, celui qui représente le blanc, et on va le glisser jusqu'à venir coller au bord droit de l'histogramme. Ce faisant, on indique que les tons les plus clairs, les tonalités les plus claires qu'on retrouve dans la photo, ce qui est ce que le bord droit de l'histogramme représente, puisque lui représente les tonalités présentes dans la photo, eh bien on indique que les tons les plus clairs dans la photo doivent être considérés comme étant du blanc. Et à partir de ce moment-là, tous les autres tons de la photo vont se répartir sur les tonalités disponibles. Donc en fait, on prend les valeurs qui ont été enregistrées sur la photo et on les étire sur une gamme de tons en fait plus large. On peut, si on veut, affiner le travail davantage en utilisant le curseur du ton neutre, donc le curseur central, voire, par exemple, pour corriger une dominante de couleur, faire une correction couche par couche. Donc appliquer une correction différenciée pour la couche rouge, la couche bleue et la couche verte. Le résultat, c'est qu'on obtient en fait une image dans laquelle les tonalités donc, sont mieux réparties dans l'ensemble de l'image. Et a priori, si on regarde l'histogramme de cette image, ben, l'histogramme devrait ressembler à l'histogramme idéal, c'est-à-dire l'histogramme qui montre des tonalités sur toute l'image. En pratique, ce n'est pas vraiment le cas, et en pratique, il y a quand même une perte de qualité, parce que Photoshop et les autres logiciels de traitement d'image ne sont pas capables d'inventer des tons. Ce qu'ils vont faire, en fait, ça va être étirer l'histogramme en quelque sorte. Il y avait des trous, il y avait un gros trou en fait dans l'ancien histogramme qui était situé soit à gauche, soit à droite. Eh bien, ils vont répartir en quelque sorte ce trou sur l'ensemble des tonalités. Mais si vous regardez l'histogramme de l'image corrigée, vous verrez toujours des trous. Au lieu d'être à gauche ou à droite, simplement ces trous sont répartis de façon plus ou moins uniforme sur l'ensemble de l'histogramme. Quand vous regardez la photo maintenant, vous avez l'impression d'une photo mieux exposée, puisqu'en fait, au lieu d'avoir un gros manque de tonalité dans les hautes lumières ou dans les ombres, vous avez en fait des tonalités réparties sur l'ensemble de la photo, comme en fait une photo bien exposée. J'ai expliqué la technique pour une photo sous-exposée. Donc avec photo sous-exposée, on prend le curseur de droite. Pour une photo surexposée, c'est le même principe, mais on part de la gauche. Je n'ai fait ici que présenter rapidement la technique des niveaux. On reviendra sur les aspects de correction dans d'autres épisodes de déclencheur. En conclusion, l'histogramme est l'outil le mieux adapté pour vérifier l'exposition d'une photo. Et il est particulièrement intéressant de l'utiliser sur le terrain, tout de suite après la prise de vue, pour vérifier qu'on n'est pas en surexp ou en sous-exp, et éventuellement faire tout de suite les corrections, refaire la photo correctement. L'histogramme nous montre de façon très synthétique la répartition des tons dans l'image, et c'est à nous de la comparer avec la répartition des tons sur le sujet. Donc si le sujet est foncé, ben, a priori l'histogramme devrait être foncé. Si le sujet est neutre, l'histogramme devrait indiquer une répartition des tons neutre. Si le sujet est clair, l'histogramme devrait indiquer une répartition des tons qui tend vers le clair. Ce qui nous amène au troisième et dernier segment de déclencheur et à la conclusion donc de l'épisode 3 avec vos commentaires, vos remarques, vos suggestions. N'hésitez pas, si à la fin de cet épisode vous avez une question, un thème que vous voulez proposer, ou si vous voulez simplement laisser un petit mot d'encouragement, eh bien contactez-moi, soit via le site www.déclencheur.com, soit via la boîte vocale. Je rappelle les paramètres de la boîte vocale dans un instant. J'ai reçu plusieurs commentaires sur l'épisode 2, d'abord différents commentaires d'encouragement de la part de JL, de la part de Vincent, 20 le chiffre 20 100 cent.net et de la part de Jerry. Je veux vraiment vous remercier pour vos encouragements qui m'aident à trouver l'énergie d'enregistrer et de réaliser ce podcast et dans le cas présent de l'enregistrer à 3h du matin. J'ai également reçu une question de Bruno Rallet qui s'interroge sur la conservation non pas des tirages tels qu'on l'a abordé dans l'épisode 2 mais bien des fichiers des photos numériques. Bruno photographie actuellement d'après son commentaire en RAW, ce qui est une excellente idée. Et il m'explique faire deux copies de chacune de ces photos placées sur deux disques durs. Alors, le sujet de la conservation des fichiers, c'est un thème extrêmement important et qui mérite un épisode complet. Parce qu'on ne pourra pas le résoudre comme ça en quelques instants sur les commentaires. Mais là, je mets ma casquette d'informaticien un instant pour quand même donner un petit peu d'informations. Si vous voulez conserver les fichiers de vos photos, il faut en faire au minimum deux copies qui doivent être placées sur deux supports différents. Et il est crucial que les deux supports ne soient jamais connectés en même temps à la machine. Donc ça veut dire qu'on connecte un des supports, par exemple un disque dur, ce qui est une bonne idée, on connecte un des supports à un disque dur, on fait sa sauvegarde des changements, etc. sur ce disque dur, on le déconnecte avant de connecter l'autre. Pourquoi ? Parce qu'un certain type d'accidents qui peuvent arriver sur la machine, la foudre, un virus, peuvent détruire irrémédiablement tous les disques qui sont connectés à la machine. Et donc forcément, si vous aviez deux copies sur deux disques qui sont à ce moment-là connectés à la machine, ben vous perdez non seulement vos données, mais également vos deux copies de sauvegarde. D'où l'importance d'utiliser des disques externes par exemple et de n'en connecter qu'un à la fois. Cette problématique en fait de conserver les fichiers, c'est une problématique qui est un petit peu nouvelle pour le photographe amateur, parce que c'est vrai que depuis longtemps on sait que quand on a des fichiers sur l'ordinateur il faut faire des sauvegardes, mais en final tant que tout ce qu'on avait c'était un CV et quelques jeux, bon, ça ne paraissait pas dramatiquement indispensable. Maintenant qu'on garde des photos, je crois que ça vaut vraiment la peine de s'interroger sur la sauvegarde, et on s'interrogera sur la sauvegarde en déclencheur, parce qu'en final, quand on perd ses photos, j'ai vu plusieurs personnes à qui c'est arrivé, ça n'est pas particulièrement agréable. Bruno termine son commentaire en me parlant de son intérêt pour les albums photos. Comme je l'expliquais dans l'épisode 2, c'est pas un thème pour lequel je suis personnellement très très compétent. Mais Bruno, si tu veux, je te cède très volontiers le micro pour nous en parler. Et de façon générale, j'en profite pour relancer l'invitation à tout le monde. Déclencheur se veut un podcast ouvert. Je vous propose différents thèmes, mais je vous invite à proposer les vôtres. Et si vous avez quelque chose à dire sur un thème, si vous avez une réaction forte à opposer ou un thème différent à proposer, eh bien, on organise une interview et on en parle ensemble sur Déclencheur. À ce propos, une remarque de Frédéric sur l'épisode 2 et en particulier sur les imprimantes. Visiblement, j'ai pas été aussi clair que nécessaire, aussi clair que possible dans l'épisode 2. Et je parle du potentiel de conservation et du potentiel de qualité des tirages jet d'encre. Et je le compare au potentiel des tirages argentiques. Et il était assez clair dans ma tête, mais visiblement je ne l'ai pas rendu très clair dans l'épisode. Quand je compare les deux, je compare les potentiels maximum et donc je compare les technologies haut de gamme dans les deux cas. Tant en argentique où je compare les meilleurs papiers Fuji qu'en matière de jet d'encre où en fait je fais les chiffres que je cite sont basés sur les encres ultrachrome. Je crois que je précise ça plus loin dans l'épisode, mais visiblement c'était pas clair au début de l'épisode. Toujours sur le sujet de l'impression, Katsura, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer à la Starline de Namur récemment, et avec modération du blog du même nom, ont discuté des coûts de l'impression et des coûts des tirages et des coûts d'un agrandissement. Ça m'amène à clarifier un autre aspect. Personnellement, je considère qu'une imprimante photo, c'est un peu une chambre noire moderne. Les amateurs dans le temps avaient dans leur cave un agrandisseur et quelques cuves avec lesquelles ils tiraient leurs photos. Pour moi, l'imprimante jet d'encre, c'est la même chose. Sauf que ça ne sent pas mauvais, on peut travailler au grand jour, on a accès à un éventail de papiers qu'on n'avait jamais connu en photo, et on peut travailler en couleur. Mais ce que je veux dire en disant que c'est la même chose, c'est que finalement, ça reste un certain investissement qui se rentabilise si on en a l'usage ou si on a la passion de le faire. La formule la plus économique, c'est clairement le tirage en laboratoire. Et notez que c'est valable même si vous voulez une fois faire réaliser un bon tirage jet d'encre pour encadrer une belle photo. Il y a des laboratoires professionnels qui font des tirages jet d'encre de très très belle qualité. Et je précise, on dit laboratoire professionnel, il ne faut absolument pas être un professionnel de la photo pour y déposer un tirage. Ils acceptent tous les travaux. Ça veut simplement dire que la qualité qui est mise dans la préparation du travaux est plus importante et donc le résultat, le tirage, est vraiment d'une très très belle qualité. Ça veut également dire que le prix est plus élevé, mais de nouveau, on ne parlait pas en matière d'encadrement et de préservation des photos courantes, on parle d'une photo plus belle, plus réussie, et donc c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, et donc ça peut quand même se justifier. Et même économiquement par rapport à une jet d'encre, je crois que ça se justifie, sauf si on fait régulièrement des tirages. Par exemple, un A3 chez Rainbow Color, qui est un laboratoire pro parisien, vous coûtera en fait bien moins cher que de recharger en encre une imprimante avec des encres ultrachrome. À votre tour de laisser un commentaire, une réflexion, une suggestion, un thème ou un mot d'encouragement, soit sur le site web www.déclencheur.com, qui accepte les messages textes complètement gratuits, soit via la boîte vocale. La boîte vocale, c'est voulu pratique, puisqu'on peut y déposer un message sans avoir la moindre besoin de matériel informatique. Il suffit de prendre un téléphone ou de sortir un mobile. J'utilise les services de la société VoxUp pour assurer la boîte vocale. Les messages laissés sur la boîte seront repris en audio sur le site et pourront être repris dans le podcast. Pour ce faire, depuis la France, vous appelez le 08 92 23 03 22 à 34 centimes d'euros la minute et on vous demandera de saisir le code service 8208. Depuis la Belgique, vous appelez le 0902 88 128 à 74 centimes d'euros la minute et là aussi, il faudra saisir le code service 8208. Depuis la Suisse, vous appelez le 0901 701 705 à 2 francs 50 la minute et là aussi, il faudra saisir le code service 8208. Attention, vous devez confirmer votre commentaire avant de raccrocher, donc écoutez bien les instructions. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner directement sur le site www.déclencheur.com. L'abonnement, évidemment, est complètement gratuit. S'abonner, ça veut simplement dire qu'on reçoit automatiquement tous les épisodes au fur et à mesure de leur parution. J'ai réalisé que certains visiteurs du site n'étaient pas parfaitement à l'aise avec le flux RSS pour gérer l'abonnement. Et je propose donc maintenant sur le site une solution simplifiée d'abonnement par email. Ce qui vous évite, en fait, si vous ne le souhaitez pas, d'avoir installé un agrégateur. Bien entendu, le flux RSS reste disponible pour les abonnements iTunes, les abonnements Netvibes, etc. C'est une option supplémentaire, on n'enlève rien de ce qui existait. Toutes les infos pour l'abonnement, y compris l'abonnement simplifié par email, sont sur le site www.déclencheur.com. Il me reste à vous dire à bientôt pour un nouvel épisode de Déclencheur, le podcast qui parle photo. Le prochain épisode sera consacré au trépied. Alors, en apparence, les trépieds, c'est un sujet sérieux, mais je trouve que le trépied est un des accessoires les plus fun de la photo. Et dans le prochain épisode, je vous expliquerai pourquoi. À bientôt !